Nova. Dans le genre de
Agnès Varda.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Là, voilà.
Bonjour, Géraldine, enchantée.
Comment vous appelez?
Géraldine.
Géraldine.
Bonjour.
Et vous?
Juste, oui.
Vous allez fourrer du son?
Oui.
Vous prenez thé ou café?
Vous n'avez pas un fauteuil, non? C'est bon?
Non, j'aime mieux une chaise.
C'est mieux une chaise?
Thé ou café?
Moi, café.
Bah, vous venez pourquoi d'ailleurs?
Alors, c'est une émission qui s'appelle Dans le genre.
Ça s'appelle Dans le genre?
Ça s'appelle Dans le genre, ouais.
Mais je sais pas, moi. Moi, je suis plutôt dans le genre rigolo.
Ouais.
C'est ça qu'on dira. Non, ouais. Mais moi, j'ai horreur des catégories. Horreur.
Bonsoir et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Dans le genre. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, rue Daguerre, chez Agnès Varda. La cinéaste de 90 ans est en effet à l'honneur ce mois-ci à la Cinémathèque française. Elle lui consacre une rétrospective, 15 jours avec Agnès, du 16 au 28 janvier.
Je joue le rôle d'une petite vieille, rondouillarde et bavarde, qui raconte sa vie.
On pourra y revoir tous ses films, fictions, documentaires, de La Pointe Courte, qui acte la naissance de la Nouvelle Vague en 1954, à ses plus récents documentaires, dans le visage Village avec J.R., en croisant bien sûr Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, Les Glaneurs et la Glaneuse, ou Sans toi ni loi. Il y aura également des masterclass, des rencontres. On est donc allé prendre le café chez Agnès, c'est le matin, il est 9h, on a été accueillis par Rosalie, sa fille, qui dirige Ciné Tamaris, la boîte de production fondée par Agnès en 1954, puisqu'Agnès Varda produit tous ses films. On s'est assise face à Agnès dans le petit salon pour discuter, comme elle dit, de son drôle de genre, celui qui s'immisce dans toute sa filmographie, radicale, novatrice, assurément féministe, pas toujours frontalement, de manière souterraine. J'ai été, dit-elle, féministe de manière subtile. On va en reparler au cours de cette émission, en revisitant avec elle certains de ses films, en se replongeant aussi dans son enfance, à 7, en parlant de son goût des marges, de sa vie des glaneuses, de patates, de toute une existence passée à écrire et créer les conditions de sa propre liberté. Pourquoi la vie de nomade? Demande un des personnages à Mona, Sandrine Bonner dans Santoine-Illois, qui lui répond « La route et le champagne, c'est mieux ». C'est parti pour une heure, dans le genre d'Agnès Varda.
Nova.
Dans le genre. L'enfance.
J'ai grandi parmi 5 frères et sœurs. D'un père d'origine grecque et d'une maman du sud. Et nous étions des Français qui vivions à Bruxelles, à Ixelles. Donc c'était très familial, très français, mais français à l'étranger. Donc on avait, comme dans pas mal de petites maisons belges, un petit jardin étroit et long. Et on était très sur nous-mêmes. C'est-à-dire les enfants, maman s'occupait de nous, beaucoup. C'était... J'ai pas connu tellement de choses, tellement d'aventures. On allait toujours à la mer du Nord, à toutes les vacances scolaires. Donc c'était un truc tout à fait dessiné et répété. Et c'est la guerre, c'est le bombardement de Belgique qui nous a fait partir de là. Donc, mon enfance, elle se passe depuis avant-guerre, oui, justement, jusqu'au bombardement de 40. Ensuite, c'est l'exode et c'est une autre vie.
Et vous partez où, après?
Ah ben, comme beaucoup d'exodes, on a traversé la France en beaucoup de mois. Et après, on a été à 7. Et à 7, qui est la base, alors, de toutes mes rencontres, mes plaisirs et mes films, tout, tout. Pour moi, la vraie vie a commencé à 7. Et pendant la guerre, ce qui n'est pas sympathique à dire, mais oui.
Quand vous étiez donc adolescente, après, à 7, quel type d'adolescente vous étiez?
Alors, à 7, l'adolescence, et ensuite, même quand j'ai vécu à Paris faire des études, que je n'ai pas faites d'ailleurs, j'ai retourné chaque année, 7 a été d'abord un port, la vie des pêcheurs. J'ai beaucoup connu, beaucoup fréquenté des pêcheurs d'un quartier qui s'appelle La Pointe Courte. Et c'est là que j'ai eu les idées, et c'est là que j'ai tourné mon premier film à 26 ans. Mais je veux dire que j'étais nourrie de leurs histoires. Beaucoup de ces toits des quartiers hauts sont d'origine italienne. Beaucoup sont des grandes familles. avec des traditions de pêche. Et tout. J'ai appris à faire la pêche sur les tantos. Pour moi, ça a été vraiment le début de la vraie vie, avec des petits bateaux, avec des pêcheurs. Et assez original dans mon genre, c'est-à-dire que j'étais pas tellement en famille. Parce que dans ma famille, j'étais la seule à faire ces choses-là.
Est-ce que devenir une jeune femme...
Comment ?
Devenir une jeune femme, est-ce que c'était quelque chose qui était très facile pour vous ou vous aviez votre façon à vous ?
Je ne me suis jamais posé des questions comme ça. C'est une fausse question pour moi.
C'est vrai ?
J'ai grandi dans un environnement. Les quais de Sète, la pêche, les tantos, les plages, qui ont nourri mon plaisir des lieux et mon imagination. Je ne me suis jamais posé la question. J'étais une femme, j'avais des frères, des sœurs. Je n'ai jamais pensé que, par exemple, mes frères étaient plus intelligents que moi ou moins. J'ai grandi sans me poser la question.
Vous n'aviez pas l'impression, par exemple, que vous aviez moins d'accès à eux, par exemple vous
avez d'accès à quoi ?
À l'espace.
Mais non, justement.
Ouais.
Je me suis sentie très libre dans l'espace que j'occupais, c'est-à-dire rien du tout. Une adolescente, et ensuite toujours la plage. Je revenais chaque année. Et j'aimais beaucoup l'idée des bords de mer, l'idée des ports. J'ai commencé à faire des petites photos par-ci, par-là.
Ouais.
J'étais très intéressée par l'environnement, les gens. J'ai toujours été passionnée par les gens.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Dans le genre de...
Dans le genre de...
Agnès Varda.
Tout à l'heure, juste avant qu'on commence à enregistrer, on parlait un petit peu de des figures un peu des chanteurs, un peu pop qui vous plaisaient quand vous étiez jeune. Vous me parliez de Brassens, qui justement avait un lien avec
Sète. Brassens qui était de Sète, oui. Et donc il était déjà une réputation pour nous. Et puis j'ai trouvé ces textes extraordinaires. La précision des textes de Brassens, la drôlerie. Alors c'était un peu choquant à l'époque. Vous savez, Garogory, des choses comme ça. Et puis, il a fait de très beaux textes. Il y en a un que j'aimais tellement, du réparateur de paratonnerre. Mais les textes, c'est raffiné. Et j'aimais bien les textes. J'ai aimé Prévert énormément. Vous savez qu'après la guerre, Prévert était très populaire. Il y avait plusieurs chansons de Prévert. Sur les chantiers, les ouvriers chantaient Prévert. C'est-à-dire que la poésie populaire, Prévert, Queneau, par exemple, vous rappelez cette chanson « Si tu t'imagines, fillette, fillette, que ça va durer ». Alors c'était écrit comme ça, « Que ça va, X-A, que ça va durer. Ce que tu te gourres, fillette, fillette ». Ça, c'était gréco. Et « Si tu t'imagines, que ça va durer ». C'était très beau. Et il y avait plusieurs qui chantaient Prévert. Il y avait plus ces chansons d'enfants qui étaient si belles, « À l'enterrement d'une feuille morte ». Trois escargots s'en vont. Et on les apprend encore, on les enseigne encore dans les écoles, ça.
Gréco, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup aussi?
Moi, j'aimais pas beaucoup, mais cette chanson-là, j'aimais. Ah ouais. Parce que c'était le texte de Queneau. Alors, j'aimais beaucoup les poètes. Queneau, Aragon, les chansons d'Aragon.
Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est la chanson qu'on entend dans le Cléo de 5 à 7. Sans toi,
mais c'est moi qui l'ai écrite.
Elle est magnifique, cette chanson.
Elle est bien.
Comment c'est pendant le scénario du film que vous avez...
Mais c'est-à-dire, comme je raconte l'histoire d'une chanteuse, j'allais quand même faire ses chansons, un minimum. Alors, il y en a trois ou quatre un peu drôles. Et comme j'étais déjà amie avec Michel Legrand, qui avait fait avec Jacques Lola, avec Jacques Demy, il avait fait la musique de Lola. Et donc, je lui ai demandé de jouer. Et d'ailleurs, dans le Cléo de 5 à 7, il joue lui-même, le compositeur pianiste qui accompagne Corinne Marchand. Ouais. Et j'ai écrit cette chanson sans toi.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi. Comme une île déserte recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de
dans le genre de
Agnès Varda.
Cléo, ça racontait, c'était une nouvelle façon de faire du cinéma, ça c'est super important, et ça raconte aussi le trajet de cette chanteuse qui apprend qu'elle est, au début du film, avec des cartes, qu'elle est atteinte d'un cancer.
Les cartes, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle va voir une cartomancienne qui lui confirme qu'elle est malade. Elle attend les résultats d'un examen. Ça, c'est la situation.
Et puis, il y a le changement que ce personnage va opérer dans le film.
Ce n'est pas l'histoire du changement, c'est l'histoire... Oui, vous avez raison. Quand vous dites... Elle attend les résultats d'un examen médical. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, le film ? Il se passe pendant 90 minutes. On ne quitte pas Cléo. C'est-à-dire, dans beaucoup de films, et c'est normal, on fait des sautes, on admet qu'on... Vous voyez quelqu'un avec une valise, après vous voyez dans le train, vous n'êtes pas obligé de savoir tout le parcours qu'il a fait à la gare. Tandis que là, on ne quittait pas Cléo, c'est-à-dire, si elle descendait les 8 marches de sa maison, il y avait les 8 marches. Elle traverse la cour, il y a la cour. C'est-à-dire, c'est exact temps, mais exacte géographie. C'est très particulier, je me suis donné un pari très difficile. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait si elle prend un taxi, c'est le vrai trajet. Si elle est dans la rue, c'est la vraie rue. Et donc, je me suis donné cette espèce de difficulté d'exécution. Et puis le temps réel absolument. Il faut que ça dure 90 minutes. Donc, on avait bien calculé. Vous comprenez, si vous savez le temps du trajet quand elle va à l'hôpital, ben il faut... Ou alors, donc elle est dans une conversation, elle rencontre un soldat. C'était très calculé. Et puis ensuite, grâce à la sensibilité de Corinne Marchand, il fallait qu'on sente ce que nous connaissons tous avec le temps. Tout d'un coup, le temps passe trop vite, parce qu'on est bien. Et tout d'un coup, on attend quelque chose, c'est trop long. C'est-à-dire les pulsations du temps, comment on le vit. Donc il y a le temps objectif, tac, 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 le temps. Et il y a le temps, comment nous le vivons. Et c'est ça la matière du film. C'est ce que les gens ont ressenti. La beauté de Cléo, ses chansons, mais comment elle vit une certaine durée, vue de près, étudiée de près. Donc c'est un film difficile, en quelque sorte. Je ne veux pas dire ambitieux, parce que ce n'est pas ambitieux, mais je m'étais donné un pari, oui. Un pari un peu difficile. Et le film a été très bien accueilli. Tout de suite, alors c'était mon second film, mais celui-là, il a vraiment été accueilli par du vrai public. Et à l'étranger. Maintenant, vous savez, je peux aller au bout du monde, on me parle de Cléo quand même.
Dans le genre de...
Agnès Varda.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre d'Agnès Varda, chez Agnès Varda, que nous sommes allés rencontrer chez elle rue Daguerre, dans le 14e arrondissement, à l'occasion de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française du 16 au 28 janvier. Et pour continuer cette émission, on va faire un petit crochet par la Californie, où Agnès Varda a vécu plusieurs années avec Jacques Demy, à la fin des années 60. Elle y a réalisé des documentaires, on se souvient de son excellent documentaire sur les Black Panthers. Elle y a également découvert plein de groupes de rock qui jouaient dans les parcs à l'époque. Elle est devenue amie avec Jim Morrison, des Doors. On écoute Waiting for the Sun.
Waiting for you too.
Bien connu Jim Morrison.
Ah, il y avait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas piqué
tout le temps, tout le temps.
Mais oui,
tout le temps.
Moi aussi, tout le monde l'aime. Mais c'est rigolo parce qu'il arrive qu'il y a des gens qui m'approchent juste à l'idée que j'ai connu Jim Morrison. Je l'ai connu relativement bien, mais relativement peu aussi, parce que c'était un homme quand même très discret. Et nous avions un ami commun par lequel je l'ai connu, nous, avec Jacques et moi. Nous avions un ami commun. Et Jacques et moi, on a connu Jim quand nous étions encore jeunes cinéastes ouais. et qu'on était encore admirés par les jeunes Américains. Et puis après, on l'a connu quand il venait à Paris et comme ça. Je pense que c'était un être exceptionnel, un poète assez redoutable et un homme un peu unique, un peu violent. Et je ne sais pas si je l'ai compris, mais j'aimais bien le voir. Il aimait la littérature, il aimait la poésie. C'était un homme cultivé. Donc il y a le côté fracassant de lui en scène qui était fracassant. Et puis, il y avait un homme plus secret, plus littéraire. C'était une personne extrêmement complexe et intéressante. Et beau aussi.
Dans le genre.
Dans le genre.
De.
Agnès Varda.
C'est pas le même type de route que ce que tu as fait, quand même. Chacun de vivre ses envies. Hein. Et puis voilà. Et tu te balades seul? Tu souffres pas trop de la solitude?
Seul, c'est bien.
J'ai passé des Noël seul. Le 25 décembre, je voyais se baffrer. Moi, j'étais seul.
Mais quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement.
Ça dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend ou qui te prend pas. Et voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas encore, encore mieux.
Je m'en fous, je bouge.
Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. Je choisis un milieu. Un moyen terme entre la solitude et la liberté.
Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini.
Toi, c'est la liberté totale. Tu choisis, mais tu as la solitude totale. Mais il vient un moment où, si on continue, je pense, on se détruit. On va à la destruction. Et si on veut vivre, on arrête. D'ailleurs, tous mes amis qui ont fait la route et qui ont continué sont morts ou sont devenus des loques.
Santoine Hillois, dont on vient d'écouter un extrait, avec Sandrine Bonheur, est votre film qui a le plus marché. Agnès Varda, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez eu l'idée de ce personnage?
C'est très simple. Il y avait, comme tout le monde savait, qu'il y avait des gens sur la route, savait, on disait « on the road ». Et il y avait des gamins, sac à dos, alors on les appelait des routards, on les appelait des vagabonds. Alors il y avait ceux qui sont à Paris sous les quais, des vieux qui buvaient, le cliché des vieux ivrognes sous les quais. Et puis il y avait les gens sur les routes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans les années, je ne sais plus, 50 ou ça, j'ai remarqué des filles. Et c'est ça, j'ai commencé à remarquer des filles sur les routes. Sac à dos. Alors là, je suis partie dans ma petite voiture et petite 4 chevaux. Et j'ai circulé dans le Sud. Je voulais faire un film dans le Sud parce que tout le monde croit que le Sud est souriant, sympathique. Et l'Hérault.
Peut être dur.
Voilà, l'Hérault peut être dur, le Tarn et tout ça. Donc, j'ai circulé en voiture toute seule. Je prenais en stop des garçons, des filles. Et je les faisais parler. Je les faisais parler, enfin. Je les écoutais. Et j'ai appris tellement de choses sur comment on peut vivre sur la route et surtout des filles.
C'était différent
j'étais
pour une fille.
Sidérée. Comment les filles. Alors, une fois, par exemple, j'en avais pris une. Et. Bon, comme toujours, je dis, je vous emmène au restaurant. Parce que vous voyez, pour être comme ça, correct. Et on s'arrête sur un petit restaurant. On rentre dans le restaurant. Tu me dis, dehors. Parce qu'elle avait l'air clocharde, parce qu'elle était mal habillée, parce qu'elle était sale.
Parce qu'elle puait, quoi, comme dit la bande-annonce.
Elle puait. Ouais. Elle puait. Et ce truc, le mur du son, c'est une chose, mais le mur de l'odeur, quand on a tourné le film avec mon équipe, on a tourné dans des squats. Et je leur disais, ils sont gentils, ils sont intéressants, mais il faut vous habituer, ça pue. Ils habitaient des endroits qui étaient dégoûtants, sales. Et visiblement, ça ne les dérangeait pas. C'est-à-dire, il faut comprendre que les valeurs qu'on a, les valeurs qu'il faut être propre, bon, ben, il faut être propre. Mais si les gens ne sont pas propres et qu'ils s'en foutent, ça n'a plus de valeur d'être propre. Donc, ils vivent là où ils sont. Et avec des aventures, des gens qui se battaient ou des gens qui repartaient faire de la route, on ne sait pas pourquoi. Et donc, les filles que j'ai rencontrées m'ont beaucoup documenté ces choses. Parce que je voulais savoir, pas tellement pourquoi elles vont sur la route, quoi, mais comment on survit. Comment, quand on n'a pas de quoi manger. Alors, elles dorment par terre. Il y en a une, d'ailleurs, une scène du film qui est inspirée par une fille qui m'a dit, moi, je plante ma tente près d'un cimetière parce que ce n'est pas par là que les gens traînent en espérant rencontrer des gens. Donc, voilà. Alors, elle plantait sa tente le long d'un cimetière. Une autre qui disait qu'il suffit de rentrer dans un bistrot, faire un peu des sourires à quelqu'un qui paye un sandwich. Et puis le fait qu'elles ont le risque d'être violées quand même, tout le temps.
Bah oui, on voit dans le film.
Mais oui, il y a ce truc. Et comment elles surpassent ça, comment... Donc, c'est comme ça que le film est né. Et c'est comme ça que le film est né. C'est-à-dire, voilà, mais je ne vais pas parler d'un garçon, je vais parler d'une fille sur la route.
Ouais, bah c'est beaucoup
et,
plus...
D'ailleurs, c'était Patricia Mazui qui est maintenant... devenue réalisatrice, qui avait inventé le titre. Elle faisait le montage avec moi. Elle parlait toujours des cow-boys, sans foi ni loi, et tout d'un coup, on a dit, sans toi ni loi. Et c'est quand même ça. Révolté et dehors. Moi, ça m'a toujours fasciné, les gens qui peuvent dormir dehors, qui n'ont pas de maison, ou qui n'en veulent pas.
Sera-ce un garçon ? Sera-ce une fille, sera-ce un quignon, sera-ce une quille, une pêche ou un brugnon, une prune ou un pruneau. Quel sera son lot, quel sera son sort, princesse en sabot, oh oh, ou prince consort, matelot ou matelote, pauvre prolote ou prolo. Sera-t-elle utile, marmotte ou marmot, gentil ou gentil, aura-t-il ou tel, ton beau regard si subtil ou ma limpide prunelle. Sera-ce un garçon avec sexe pill, sera-ce une fille avec sexe pill, j'aimerais tant le savoir, j'aimerais tant le savoir.
Wow. Il y a un autre de vos films que j'adore, que je l'ai vu juste il y a 2 semaines, je ne l'avais pas vu, c'est L'une chante, l'autre pas. C'est peut-être votre film le plus ouvertement, enfin, dans la thématique, je veux dire, féministe. Il parle du trajet de 2 amis sur des années. Et à la fin, il y a votre voix off et vous dites... elles avaient, dites-moi si je me trompe, conquis la liberté d'être une femme. Je trouvais ça très beau, ce film.
C'est très basé sur cette phrase de Simone Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Et c'est vrai que les femmes doivent conquérir leur identité de femme.
Ouais.
Et ça, c'était l'histoire de 2 filles qui se rencontrent quand elles sont jeunes. Une qui a déjà 2 enfants et qui n'en peut plus. Et une qui est révoltée. Mais l'une qui part avec un groupe de filles chanter sur les routes. Vous savez, ces groupes qui chantaient la liberté, qui chantaient les femmes qui chantaient. La liberté, beaucoup, c'était ça l'idée. Et puis l'autre qui comprend comment elle s'en sort seule avec ses deux enfants, avec des parents qui ne veulent pas d'elle, et comment elle doit lutter. Et comment beaucoup de femmes, en intégrant des groupes, et tout ce qui a été fait par le planning familial, par le MLF, et ces centres où on recevait les femmes pour leur parler, et qu'on se rendait compte que les femmes étaient timides, les femmes avaient peur de leur mari, de leur père, beaucoup, et que pour leur donner un peu de conscience, un peu de confiance en elles-mêmes, c'était des groupes comme ça, on accueillait des femmes, toutes sortes de filles qui n'avaient pas conscience qu'elles avaient le droit d'avoir une pensée, d'être en révolte, de dire des choses à leurs enfants ou à leurs hommes qui n'étaient pas ce qu'on leur avait dit de dire. Donc les femmes ont été quand même tenues en captivité, j'allais dire, de rôle de femme, alors que moi, j'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu gagner ma vie, toujours pensé que c'était important. Et après, j'ai vécu des années avec Jacques Demy. Je n'ai pas été abrutie par ça. J'ai continué à garder mon nom, à faire mon travail et à partager ce qu'on peut partager avec un homme, c'est-à-dire la vie de famille, la table, le lit, tout ce qu'on peut partager, mais pas l'identité personnelle, le travail. Et Jacques faisait des films magnifiques. Et il les faisait de son côté. On était dans la même maison, ici, des deux côtés de la cour. Mais on n'a jamais pensé, ni l'un ni l'autre, qu'on était obligé de rentrer dans le ronron de la classique, je ne sais pas, place de la femme dans la société, telle qu'elle avait été vécue avant.
Oui, ça, c'est une conviction que vous aviez depuis toujours.
J'ai eu dès que je suis née. Oui. Parce que pourtant, ma mère était... Elle a élevé ses 5 enfants, elle n'avait aucune... Je me souviens qu'elle me disait un truc qui me rend des fois. Le plus beau métier pour une femme, c'est d'avoir des enfants.
J'aime cet enfant autant que je t'aime.
J'aime cet enfant autant que je t'aime.
Alors qu'est-ce qu'on va faire?
Je sais pas. J'ai une idée. Une idée formidable. Tu me fais un autre petit, comme ça on en aura chacun.
Mais comment? Quand? Tu es folle? On ne sait déjà pas comment vivre avec celui-ci et je dois partir dans une semaine ou deux ou plus tard.
Ça fait rien, tu restes un peu. T'attends que je me remette, que je me repose un peu. Et puis tout doucement, tu me refais un autre petit.
C'est fou, ça. J'ai jamais vu ça. C'est marginal, encore une fois. C'est utopique.
Pense-y.
Mais ça serait mieux que tu viennes vivre en Iran, non?
Ah non, Sadarius, ça c'est fini. Ah non, les fausses images, les clichés, non, c'est fini.
Et justement, dans votre film, là, dans le film dont on parle, je trouvais que ça, c'était... Enfin, c'est presque étonnant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, même contemporains, qui abordent ces questions. Et celui-là, je l'ai trouvé hyper moderne, sur la question de la maternité, justement, sur ce qu'une des deux héroïnes va proposer à Dariush, par exemple, de faire deux enfants, d'en garder un chacun.
Ça, c'est un peu compliqué, là. J'avoue que là, j'ai été poussée un peu loin de l'utopie. Non, ce que j'ai entendu quelqu'un qui critiquait ce film, en disant, oui, elles sont féministes, elles se battent, mais à la fin, elles ont l'air si contentes d'attendre un enfant. Mais c'est que, c'est ça, le thème de l'une chante l'autre pas. C'est pas avortons, avortons, parce que c'est pas très gay, mais c'est nous voulons des enfants désirés.
Ouais.
C'est ça qui change tout. C'est-à-dire que d'un enfant désiré et qu'on a dans des conditions juste normales, et non pas par fatalité ou parce qu'on vous l'a fait dans le dos ou parce que voilà. Donc c'était cette lutte pour la contraception qui veut dire qu'à partir de là, logiquement, les enfants seraient désirés et accueillis comme tels. Mais ça a été un peu mal compris, comme si le film est militant, mais qu'il ne faudrait pas faire l'apologie des bébés. Alors quelqu'un dit, mais c'est comme si tu disais que tu étais du parti de laisser les vivre. Mais ce n'est pas ça la question. Il y a beaucoup d'enfants désirés qui sont des bonheurs dans les familles ou oui, chez sûr. Les femmes. Donc c'est compliqué. C'est complexe parce que rien n'est très simple. Rien n'est très simple. D'être une femme, a priori, c'est tout simple puisqu'on n'a pas choisi, on est une femme. Mais comment est-ce qu'on conquiert, comment est-ce qu'on apprend à être une femme? C'est ça. Comment est-ce qu'on devient une femme si on est née femme? Alors vous savez, mes chansons, j'avais écrit « Biologie n'est pas destin », tout ça, des choses comme ça. Parce que c'est absolument vrai. Alors moi, ça m'a été très naturel parce que je suis naturellement indépendante, je crois. C'est parce que j'ai fait un cinéma indépendant que je me suis retrouvée dans la même foulée de 60 à 70 avec tous les gars qui ont été nommés la nouvelle vague. Alors évidemment, Godard, Truffaut, Demy, Chabrol. Il y a eu quand même une incroyable éclosion de talents. Et comme j'avais commencé avant, moi, 5 ans avant, donc on m'a appelée la grand-mère de la nouvelle vague, voilà. Quand j'avais 30 ans, c'était pas mal comme titre. Mais donc, maintenant, je suis la dinosaure de la nouvelle vague. Il ne reste pas beaucoup, il reste Godard et moi, je crois.
Vous disiez, il y a des femmes qui tournaient à votre époque, assez peu quand même. Il y avait peu de techniciennes aussi. Vous avez beaucoup dit aux techniciennes, réveillez-vous, allez-y, venez. Et il y a une chose sur laquelle je voulais vous interroger, justement sur l'une chante, l'autre pas. J'ai lu, enfin, vous disiez dans une interview, que c'était un des premiers tournages qui avait été paritaire. Et que sur le tournage, les hommes présents sur le film...
Il y avait 10 hommes, 10 femmes.
Ouais, ils s'occupaient aussi des enfants. Enfin, il y avait un vrai partage des tâches.
Alors, c'était presque une condition. Quand ils sont rentrés, aux machinaux, à l'électro, tout ça, on leur a dit, voilà, on a des enfants avec nous, il y en aura beaucoup qui vont traîner par là. C'est pas que les femmes qui s'en occuperont. Alors, dans le petit dossier de presse, je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Oh, il y a un petit dossier de presse rigolo. Il y a des petites photos, alors, on voit le machinot qui donne le biberon, on voit un électricien. Alors, vous savez, les électriciens, ils ont toujours des pinces à linge parce qu'il faut qu'ils accrochent des fils. Alors, on voit l'électricien qui change la couche d'un bébé. On avait exagéré la chose, on faisait exprès des photos, mais ça faisait partie du jeu. Je ne vois pas pourquoi sur un tournage où on est tous des techniciens, ce seraient les femmes qui feraient le café. C'est bien connu, moi je me souviens des groupes militants où ils avaient des réunions et les filles faisaient le café. Ouais. Les militants.
Oui, des contradictions
comme ça. Alors, de temps en temps, j'en rappelle un groupe qui s'est séparé, c'était un mini sous-groupe qui s'appelait le Torchon Brûle, parce qu'elles ne voulaient pas que dans les réunions politiques, ce soit les filles... Une fois de plus qu'il fasse ce café. Et tous ces trucs-là, il a fallu, pour tous ces sujets, il a fallu conquérir la compréhension des hommes ou l'incompréhension.
Vous avez l'impression que ça a beaucoup évolué ou
Oui, on ne faisait pas par misère. Hein. Ouais. Parce qu'alors, y a, disons que dans les milieux qu'on connaît, dans les milieux de techniciens, dans les milieux de cinéma, de journalistes, il y a beaucoup d'hommes qui se sont adaptés au fait qu'il fallait qu'ils fassent des choses comme les femmes, qu'ils s'occupent de la maison, qu'ils prennent... Moi, je vois beaucoup d'hommes qui emportent les enfants à l'école le matin et tout ça. Ça a changé. Mais allez dans les campagnes. Oui. Alors, dans les campagnes, dans les fermes, dans les toutes petites villes, c'est terrible. Ça n'a pas encore éclaté. C'est encore bien coincé. Il y a le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Alors, c'est difficile parce que c'est un grand sujet quand même. Ça m'a passionné toute ma vie, mais... On fait 3 pas en avant, 2 en arrière, 1 en avant, 4 en arrière, 6 en avant. C'est-à-dire, ça va doucement, doucement. Mais les esprits ont évolué un petit peu. Alors, dans la vie politique, ça évolue un petit peu. Tout avance un petit peu. Mais quand je dis que ça avance, c'est parce que c'est important d'imaginer une société où il y aurait un petit peu de partage. C'est pas les hommes sont les hommes, les femmes sont les hommes. Ils ont les goûts qu'ils veulent pour qui ils veulent. Mais c'est dans la vie sociale qu'il faut quelque chose.
House. Orient, the eyes of Lucy Jordan, on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed. White car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with a warm wind in her hair.
Dans le genre de
Agnès Varda.
Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan sur Nova. Agnès Varda, on parlait de l'évolution des rapports hommes-femmes dans la société. Et je voulais vous demander, dans le cinéma plus spécifiquement, est-ce qu'un des leviers pour modifier ces rapports, justement, c'est l'argent? Est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre?
Les réalisatrices qui ont rapporté de l'argent sont plus estimées que les chercheuses. Et ça, c'est la vie comme ça. Si vous voulez, dans la société de cinéma, ce qui compte, c'est l'argent. Alors, vous avez des hommes, un type comme Danny Boone, avec des films très sympathiques, il ramasse 7 millions de spectateurs. Bon. Et puis vous avez des films, certains films, d'hommes ou de femmes, qui sont sympathiques, qui sont chaleureux, mais qui ramassent rien du tout. 300 000 entrées, 400 000 entrées. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que Danny Boone, il n'a qu'à claquer des doigts, il peut faire ce qu'il veut. Ou bien, il y a regardé les films où Jean Reno avait tourné, les films comme ça. Il y a des films qui marchent, et il n'y a que des comédies qui marchent. Et pour les distributeurs, c'est ça qui est intéressant, qui ramasse de l'argent. Mais alors, moi, j'ai une position, je suis, d'une certaine façon, j'aime pas le mot, mais je suis respectée. Parce que, alors, un des trucs, j'ai jamais fait de publicité, j'ai jamais fait de film juste parce qu'on me donne une star, j'ai jamais adapté des livres connus. J'ai dit, il faut être original, il faut écrire un scénario, il faut faire tourner beaucoup de gens qui ne sont pas acteurs. Donc j'ai une position très précise.
Comment vous avez vécu, ce que ça vous a inspiré, MeToo, en fait, tout ce soulèvement des actrices, toutes ces femmes qui ont commencé à prendre la parole dans le cinéma?
Mais il y a longtemps quand même.
Oui, mais bon, on en a reparlé beaucoup l'année dernière.
Oui, mais il y a longtemps, vous savez. Il y a eu, même pendant un moment... Dans les années 68, il y avait un groupe qui s'appelait Musidora. Mais on essayait de faire entendre la voix des femmes qui voulaient faire ce métier à leurs propres conditions, à leurs propres idées. Mais ça se fait comme ça. Et comme les femmes, il faut aussi qu'elles trouvent l'argent pour faire les films. Non, ce qui est intéressant, c'est un peu injuste, si vous voulez, parce que maintenant, moi, je suis extrêmement connue parce que j'ai commencé il y a longtemps, j'ai fait quelques films qui ont été remarqués. Et ce n'est pas très, très juste, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont du talent et qui, on peut pas, tout le monde ne peut pas monter sur l'estrade. Il y a trop de monde maintenant.
Qui c'est qui?
Et alors moi, je pense que pour beaucoup de jeunes femmes, ça doit les agacer. Que je ne sois pas encore morte, que je fasse encore des films, qu'on parle encore de moi, que je reçoive des prix partout. C'est pas très... Alors comme plus je vieillis, plus on me donne des prix, des honneurs, des trophées, des machins.
Il y a un bestiaire maintenant.
Mais il y a deux à moi, là.
Alors, des ours, des lions, des...
Alors, je ne vais pas dire non, les gens sont gentils, ils m'offrent quelque chose, bon. Mais je trouve que c'est un peu injuste. C'est-à-dire, je prends un peu beaucoup trop la lumière. Alors qu'il y a vraiment des jeunes femmes qui ont du talent. Il y a des films nouveaux. Et je ne vais pas commencer à faire une liste, si vous voulez, mais c'est intéressant ce qui se passe. Et... Enfin, je pense que j'agace un peu les jeunes... réalisatrice.
Mais bon, je crois pas.
Bah, parce que je suis trop vieille que je travaille encore, quoi. Je devrais bien m'arrêter. Je veux plus parler de mes films. Là, je parle avec vous parce que je comprends bien que comme il y a cette rétrospective, et puis Radio Nova a toujours été très positif envers moi, mais...
Oui, vous avez envie de faire autre chose. Oui.
Hein?
Vous avez envie de faire autre chose, d'occuper votre temps.
J'ai envie de faire les œuvres d'art que je fais, que j'expose, même si je les vends pas. Je pense toujours... à quelque chose que j'aimais beaucoup dans le Midi. Vous savez, les gens ont leur façon de parler avec l'accent. Alors, dans un marché, il y avait une femme qui vendait des salades. Elle disait, « Ah, ma romaine, si je ne la vends pas, je la promène. » Eh bien, c'est vraiment ça que je pense. C'est-à-dire que même si ça ne marche pas ce que je fais, eh bien, je me promène avec mon travail, mes œuvres, mes petites créations, et je les montre et je me promène.
Qu'est-ce que ça nous apprend de vieillir ?
Oh, c'est agréable quand même. Le corps ne suit pas comme la tête, mais bon. Je me prépare gentiment à mourir. Mais il n'y a pas de mal à dire ça à mon âge.
Merci beaucoup Agnès Varda. C'est la fin de cette émission. Elle a été enregistrée par Juste Bruya et réalisée par Benoît Thuot. Ne manquez pas la rétrospective Varda, 15 jours avec Agnès du 16 au 28 janvier à la Cinémathèque. Merci beaucoup à Rosalie Varda et Élodie Dufour. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.